La revue de presse avec David Abiker.
Bonjour David.
Bonjour Renaud et bonjour à tous.
La revue de presse à la une, les dérèglements des temps présents.
Il y a le dérèglement civique, ce qu'Emmanuel Macron appelle la décivilisation, et puis vous avez le dérèglement climatique. La décivilisation, c'est la une du Monde, qui précise que le président rôde depuis plusieurs mois ce concept, utilisé à droite et à l'extrême droite, pour décrire l'évolution violente de la société qu'il a pointé hier, lors de l'hommage national rendu aux trois policiers de Roubaix. La décivilisation donc, et puis le dérèglement climatique ensuite, qui fait la une des journaux ce matin. Impôts climat, Macron va-t-il résister à la gauche ? Se demande le Figaro, qui a peur des impôts. À la une de l'Obs également, le climat, réchauffement climatique, comment la France doit s'adapter. Le climat encore à la une de la Tribune. CAC 40, le climat électrise les assemblées générales, notamment celle de Total Energy qui se tient aujourd'hui. Et puis il y a la une du Parisien aujourd'hui en France.
Haro sur la météo, titre le Parisien aujourd'hui en France.
Prévisionnistes et présentateurs météo sont devenus des cibles. Des cibles, vous vous rendez compte ? Pas comme les policiers ou les pompiers ou les soignants. Des cibles de la vindicte virulente des climato-sceptiques sur les réseaux. Quand vous n'êtes même pas capable de faire des prévisions correctes à J-1, on peut douter de vos compétences sur vos analyses concernant le réchauffement climatique. Des messages de ce genre, et encore celui-là est convenable, Météo France en a reçu des dizaines début avril via Twitter. L'institution s'en désole et confie aux Parisiens une amplification des critiques à la fois en volume et en tonalité. Des invectives de plus en plus agressives. L'agroclimatologue Serge Zarka décrit lui aussi une recrudescence exceptionnelle du climato-scepticisme online. Depuis l'été dernier, il reçoit plusieurs dizaines à plusieurs centaines d'insultes chaque jour. Les arguments sont souvent simples. Le printemps est un peu frais à court terme, c'est la preuve que les climatologues se trompent à long terme. Un présentateur météo de BFM TV, Guillaume Séché, décrit lui aussi des phénomènes de meute. On moque son nom de famille, Séché, sécheresse. Oh là là, c'est fin. Et puis, de la moquerie, on passe à l'insulte. Une virulence qui n'égale pas ce qui se passe en Espagne, où l'Agence Météo Nationale a été violemment accusée tout récemment d'exagérer la vague de chaleur fin avril. Manipulation climatique, agenda satanique 2030. Jusqu'à des menaces de mort. Le ministre espagnol de la Transition écologique a dû apporter publiquement son soutien à l'agence sur Twitter. Twitter, où sévissent à nouveau des comptes climato-sceptiques très influents, qui peuvent désormais s'acheter un badge bleu et une crédibilité moyennant 9 euros. Merci Elon Musk.
On vit une époque formidable. Comment répondre à ces attaques, interroge justement le Parisien aujourd'hui en France.
Alors il y a plusieurs méthodes. La pédagogie, la main tendue, évidemment l'explication, l'invitation à lire les publications sérieuses. Météo France a même invité les climato-sceptiques à lui rendre visite. Rien n'y fait. Le climatologue François-Marie Bréon fait la part des choses. Les climato-sceptiques ont perdu la bataille médiatique. Ils ne sont plus invités sur les plateaux télé. Et c'est justement le sujet. Les portes des médias traditionnels étant fermées à ceux qui contestent la réalité du dérèglement climatique, eh bien, ceux-ci se déchaînent sur les réseaux sociaux qui ressemblent de plus en plus à une cocotte minute. La température y est en surchauffe. Et une partie de ce que certains appellent la décivilisation commence aussi sur les réseaux sociaux.
À la une du Figaro, on ne conteste pas la réalité du changement climatique.
Non, c'est plutôt la méthode fiscale pour financer la transition écologique et énergétique qui est contestée. Au secours, l'ISF revient, alerte Jacques-Olivier Martin dans son édito du Figaro, qui redoute que le gouvernement ne rétablisse cet ISF vert sous prétexte de financer la transition écolo. Bruno Le Maire est contre, mais le président, comme Madame Borne, n'ont pas fermé la porte. Pour l'éditorialiste du Figaro, la seule voie possible, c'est la réduction de la dépense publique. Les économies budgétaires et l'allocation des ressources pour la transition verte. Dans les échos, Jean-Francis Pécresse, même tonalité. Un ISF vert serait économiquement contre-productif et socialement destructeur. Éric Le Boucher, lui, toujours dans les échos, se place à l'échelle européenne. L'Europe doit cesser de vouloir jouer les modèles et vouloir réduire les émissions de CO2 mondiales à elle seule. L'Europe est le bon élève de la planète. Elle a réduit ses émissions de 25% en 20 ans. Aujourd'hui, l'Europe, c'est 2 fois moins d'émissions que les États-Unis et 4 fois moins que la Chine. Conclusion, il faut aider les pays asiatiques et du Sud et d'Afrique à se décarboner. Et Le Boucher, comme à son habitude, ose dire des choses difficiles à entendre mais aisées à comprendre. La bataille pour le climat ne se joue que très marginalement en Europe. Il faut se défaire de la logique sacrificielle des écologistes et surtout investir en recherche et développement.
Rien à voir, hein, David. Demain, on juge un tueur en série à Gambé dans les Yvelines. Ça me dit quelque chose.
Ah, un village cher à mon cœur. Gambé, nous rappelle Le Parisien aujourd'hui en France. C'est le village où Landru a attiré ses victimes. victimes, les malheureuses. Il en a assassiné 11 femmes à la connaissance de la justice, auxquelles il promettait évidemment le mariage et l'amour. C'était dans l'immédiate après-guerre, Première Guerre mondiale. Eh bien, le village où résidait Landru le rejuge demain soir et dimanche soir au théâtre à Gambet, dans une pièce écrite et mise en scène par Louis Barrault et interprétée par Gauthier Jambard. La nouveauté, c'est qu'à la fin, 14 spectateurs se prononceront sur un dossier qui comportait quelques zones d'ombre, ce qui n'a pas empêché la justice de faire couper la tête à Landru il y a un siècle. Terminons avec des têtes de chanteurs en couverture des journaux, et des fortes têtes même. Et il y en a plein les journaux, on ne sait jamais. On dit que certains chanteurs peuvent provoquer la pluie et changer le climat. Cantona est maintenant chanteur, titre Le Parisien Magazine. Pascal Obispo, lui, fait la une de Match et semble vivre au Cap Ferret une idylle avec notre consoeur Sonia Mabrouk. Enfin, en une des libérations, Jean-Louis Murat, disparu hier à l'âge de 71 ans. Chanteur, auteur, poète, beau gosse aux yeux bleus, auvergnat, et auquel Isabelle Huppert rend un bel hommage, parlant de sa douceur et de sa sauvagerie. C'est dans Libération. Murat n'a pas dit son dernier mot, plus d'une vingtaine d'albums et presque autant de chansons inédites. Autant dire, comme il l'a dit lui-même, qu'on va le redécouvrir après sa mort. Moi, ma chanson préférée, c'est une chanson qu'il a écrite en songeant sans doute à l'Auvergne et à la mort, il y a une quinzaine d'années. Que dit-elle cette chanson ? Tout ce qui mène au tombeau, ici-bas devient beau, fait la mélancolie des gens de mon pays. Je voulais te dire, ne pleure pas Caillou, je t'aime. Ça ressemble à une lettre d'adieu, bien avant la date.
Tout ce qui mène au tombeau, ici-bas devient beau, fait la mélancolie des gens de mon pays. Je voulais te dire, ne pleure pas Caillou.
Moi, j'ai un petit faible pour le Cri du Papillon, mais voyez, hein, comme quoi tous les goûts sont chanteur. Dans la nature. Oui, effectivement, c'était une très forte personnalité, Jean-Louis Murat. Merci, David. Je vous souhaite un excellent week-end. On vous retrouve bien sûr lundi pour une nouvelle revue de presse. Ils sont déjà dans ce studio et ils n'ont pas perdu une miette de cette revue de presse. C'est bien sûr Christophe Barbier et Jean-Marie Colombani, Esprit Libre, dans une poignée de secondes. Il est 8h40 sur Radio Classique.